connaître Dieu. Il y a maintenant un peu plus de 2 mois, je vous ai proposé d'entamer une réflexion sur ce thème, pour partir à la découverte de qui est notre Dieu. Car nous avions vu que cette quête de la connaissance de Dieu était bien la plus extraordinaire qui puisse nous être donnée. Jésus le disait, « Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et le prophète Jérémie déjà l'avait affirmé, « Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître. Moi qui suis l'Éternel, qui agis avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur la terre, car ce sont là les choses qui me font plaisir, l'Éternel le déclare. » Oui, connaître Dieu, la plus grande gloire qui puisse exister sur cette terre. Et Charles Spurgeon, le grand prédicateur du XIXe siècle, nous avait rappelé avec force combien cette connaissance serait à la fois pour nous une source d'exaltation, mais aussi une source de consolation. Et donc ce matin, comme promis, je vous propose de continuer là-dessus et de creuser maintenant cette question pour enrichir à travers les textes de la Bible notre connaissance du Dieu qui nous y est présenté. Et alors on va le faire en 3 grandes parties. Durant 2 fois prochaines, nous parlerons du Dieu de vérité, puis du Dieu d'amour. Mais aujourd'hui, je vous invite à découvrir, pour commencer, le Dieu de majesté. Nous allons parler de la majesté infinie de Dieu. Nous allons parler de la gloire infinie de Dieu. Nous allons peut-être repousser nos limites et nous rapprocher, ne serait-ce qu'un peu, du Dieu de l'infini. Et pour cela, je vous propose de commencer par regarder ensemble une petite vidéo pour nous mettre dans l'ambiance, si je peux dire. Prenons, si vous le voulez bien, un peu de hauteur, beaucoup de hauteur même. Faisons un zoom arrière à partir de notre bonne vieille planète Terre et plongeons-nous la tête dans les étoiles. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ce genre de vidéo, ça me laisse un petit peu sans voix. Et je me rappelle avoir visité, il y a quelques années, la Cité de l'Espace à Toulouse et avoir été vraiment impressionné devant ces images, ces vidéos ou ces chiffres, tout simplement, qui nous racontent l'immensité insondable de l'univers. Une immensité qui nous dépasse dans l'espace et puis aussi dans le temps, et qui nous ferait presque perdre la raison. Et pourtant, je me dis, si on réfléchit un peu, que cette immensité est encore énormément réductrice si on veut parler de Dieu. Car aussi grand soit notre univers, aussi profond, aussi infini soit-il, il n'en reste pas moins finalement qu'il n'est qu'une création. Alors que ce matin, nous souhaitons parler du Créateur. Et je suis absolument convaincu qu'il y a un gouffre infiniment plus grand entre Dieu et l'univers qu'entre ce même univers et nous-mêmes. Et si l'immensité des galaxies avait des yeux pour contempler le Dieu vivant, je suis sûr qu'elle serait encore plus émerveillée que nous quand nous contemplons l'étendue des cieux. Oui, même notre univers est inscrit dans la création, il est inscrit dans le temps et l'espace, alors que le Créateur est hors du temps, hors de l'espace, hors de la création. Il est indescriptiblement au-dessus de tout cela. Avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers, de toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Psaume 90. Mais est-ce qu'en vérité Dieu habiterait sur la terre alors que le ciel, dans toute son immensité, ne saurait le contenir? Voilà le Dieu dont nous parlons ce matin. Voilà le Dieu que nous sommes appelés à connaître. Un être sans commune mesure avec nous et avec toute sa création universelle. Et c'est la première chose que je voulais noter avec vous ce matin. Quand nous parlons de Dieu, nous parlons en fait du tout autre, celui dont l'existence, la nature, l'essence et l'être sont fondamentalement au-dessus de nous. Et du coup, on est vite limité pour en parler. Alors prenons peut-être juste les mots que lui-même utilise quand il vient se présenter aux hommes. Je suis celui qui est, dit Dieu à Moïse. Et Jésus le dira aussi plus tard, moi, je suis. Dieu est celui qui est. Et ça nous dépasse définitivement. La vision de ce Dieu nous dépasse complètement. Et parce qu'elle nous dépasse, elle va naturellement faire naître en nous deux réactions, je dirais, normales face à ces réalités. Ces deux réactions, ce sont l'humilité et la crainte. Et avant d'aller plus loin, je voudrais en dire deux mots, parce que ces sentiments vont logiquement accompagner toute personne qui veut mieux connaître son Dieu. Il faut donc leur faire une place. L'humilité, tout d'abord. La grandeur infinie de Dieu nous pousse bien évidemment en premier lieu à l'humilité. Une humilité bien sûr face à qui il est par rapport à nous, cela va de soi. Mais aussi, je crois, une humilité face à ce que nous allons pouvoir comprendre de lui. Parce que nous sommes invités à le connaître, oui, pour de vrai. Oui, et pourtant, de toute évidence, Dieu est hors de notre portée. Et il va nous falloir accepter ce décalage dans notre quête de la connaissance de Dieu. Et notamment, il va nous falloir accepter que certaines choses concernant Dieu, concernant son être, ou les confins de sa pensée profonde, sont tellement au-dessus de notre intelligence qu'elles ne nous seront tout simplement jamais accessible. Et il me semble que ce n'est pas anodin de préciser ça ici, même si ça paraît bien sûr une évidence. Ce n'est pas anodin parce que parfois, intellectuellement, ou plus même dans le concret de nos vies, nous aboutirons à des impasses. Des impasses sur le « comment Dieu est ainsi » ou sur le « pourquoi Dieu fait ainsi ». Et on va en voir d'ailleurs quelques-unes ce matin. Et alors, il nous faudra admettre dans ces cas-là, avec humilité, qu'il nous manque une pièce du puzzle. Parce que sinon, on pourrait se perdre à vouloir le reconstituer à tout prix, alors qu'on n'en a pas les moyens. L'humilité devant la réalité de ce Dieu nous apprendra à nous garder de ça. Et puis, deuxième réaction, c'est la crainte. Parler d'un Dieu si incommensurable devrait en effet faire naître chez toute personne normalement constituée un sentiment de crainte. Car on se sent quand même un peu écrasé par une dimension aussi grande. Et c'est sans aucun doute une réaction saine. Car comme le dit le sage, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et je me dis au contraire que ce serait de la folie de ne pas craindre un tel être. D'ailleurs, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous le dit bien. C'est pourquoi, dit-il, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Oui, la crainte est saine. Elle est saine en tout cas tant qu'elle s'apparente à un profond respect. Elle est peut-être moins saine quand elle devient synonyme de peur. Parce que la peur, au contraire de la crainte-respect, installe des barrières. Et je ne pense pas que ce soit ce que Dieu veut. Preuve en est d'ailleurs à chaque fois dans la Bible que Dieu apparaît avec gloire aux hommes, il leur répète sans cesse, n'ayez pas peur. Mais voilà donc, muni d'une grande humilité et d'un profond respect, approchons-nous de ce Dieu si incroyable et apprenons à le connaître. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais m'arrêter sur deux points en particulier, deux caractéristiques particulières de Dieu. Deux caractéristiques qui vont venir nous parler avec force de cette majesté, de cette gloire du Dieu vivant. Ces deux points, ce sont l'indépendance de Dieu et la souveraineté de Dieu. Premier point d'abord. Au cœur de son discours à Athènes, l'apôtre Paul déclara « Dieu, qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. » Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toute chose. Voici un texte qui introduit ce premier mot autour de la majesté de Dieu, qui est son indépendance. Dieu est un Dieu indépendant, c'est-à-dire qu'il est le seul être ayant existé existant ou qui existera, qui se suffit à lui-même. Alors c'est sans doute une vérité un peu philosophique, j'en conviens, et on ne va pas entrer dans toutes les considérations existentielles qu'elle pourrait impliquer. Mais je voulais quand même relever une conséquence de cette indépendance de Dieu, une conséquence qui vient nous toucher très directement sur la question de notre relation avec lui. Que nous dit l'indépendance de Dieu au sujet de notre relation avec lui? Eh bien, elle nous dit que Dieu n'a pas besoin d'être en relation avec nous. Je vais même plus loin. Dieu n'a pas besoin de notre amour. Tout simplement, Dieu n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de vous ni de moi. Et je ne sais pas comment vous recevez cette phrase. Moi, je vous avoue, au premier abord en tout cas, qu'elle me met quand même un peu mal à l'aise. Parce que je me sens tout à coup bien insignifiant. Et pourtant, je crois qu'il y a ici une merveilleuse nouvelle. Mais n'allons pas trop vite. Et avant d'en arriver là, essayons d'abord de mieux comprendre de quoi il est question quand on parle de l'indépendance de Dieu. Nous sommes des êtres dépendants, n'est-ce pas? On est d'accord. D'un point de vue biologique, bien sûr, on a besoin d'eau, on a besoin de nourriture, par exemple. Mais aussi d'un point de vue social ou relationnel. Et à ce sujet, on en a déjà parlé plusieurs fois ici, je crois, de cette expérience que l'empereur Frédéric II a fait un jour quand il voulut découvrir le langage naturel de l'être humain. Et alors, il plaça 6 bébés sous le soin de nourrice, mais qui avaient l'interdiction formelle de leur parler, parce qu'il voulait voir justement quelle serait la première langue que ces bébés utiliseraient. Alors, c'est une expérience un peu bizarre. Mais c'est surtout une expérience qui vira au tragique quand les 6 bébés finirent par se laisser mourir, faute de relations. Et Frédéric II avait en fait démontré autre chose, que les relations sont indispensables à la vie. Nous avons naturellement besoin de l'autre. Nous sommes naturellement dépendants. Mais donc, il n'en est pas de même pour Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être en relation avec quelqu'un d'autre. Et pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que Dieu connaît déjà la relation parfaite en lui-même. Et c'est ce qui fonde son indépendance relationnelle. Dieu connaît l'amour avec un grand A en son propre sein. C'est-à-dire, en fait, et on parle maintenant au sein de la Trinité. Et on s'arrête un instant là-dessus, sur la Trinité, sur le mystère de la Trinité. On pourrait passer vite sur ce sujet qui est un petit peu confus pour nous. Mais si on veut avancer dans la connaissance de Dieu, il nous faut quand même dire quelques mots là-dessus. Mais en tout cas, nous voilà arrivés à notre premier obstacle, à notre premier lieu d'incompréhension, et donc à un premier appel à l'humilité dont on a parlé, la Trinité. La Trinité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'addition de 3 affirmations bibliques fortes et claires, mais qu'on a quand même un peu de mal à imbriquer ensemble. Première affirmation, il y a un seul Dieu. Deuxième affirmation, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Troisième affirmation, le Fils n'est pas le Père, l'Esprit n'est pas le Fils, le Père n'est pas l'Esprit. En résumé, on dira un seul et unique Dieu vivant, un seul et unique Dieu, pardon, mais vivant en 3 personnes distinctes, chacune étant pleinement Dieu. Mystérieux, s'il en est. On l'a dit, mais rappelons-nous que nous parlons du tout autre. Alors, il peut être quand même intéressant d'essayer de trouver quelques analogies dans notre monde, pour nous aider malgré tout à mieux cerner, à mieux comprendre la Trinité. Personnellement, ma préférée que je vous partage est celle qui nous parle des molécules. Vous savez, ces éléments à la base de nos vies. Par exemple, la molécule d'eau, dont on apprend qu'elle peut, sous certaines conditions atmosphériques et de température, coexister en même temps et indifféremment sous ces 3 états, solide, liquide et gazeux, à ce qu'on appelle le point triple. Vous avez le dessin qui est très clair à l'écran. Et c'est une image intéressante, je trouve, cette idée d'une coexistence simultanée de la même matière en trois états, cette matière qui est à la base de nos vies en plus. Même si, disons-le, quand on creuse un peu, on remarque que cette image est encore bien trop réductrice pour rendre compte de la profondeur de la signification de la Trinité. Alors, je ne vais pas en dire plus là-dessus. Mais par contre, je voudrais de nouveau insister sur son caractère essentiel. Parce qu'on l'a dit, c'est elle, la Trinité, qui vient établir l'indépendance relationnelle de Dieu. Au cœur de la Trinité, Dieu vit des relations indépendantes de la création. Et il y vit même une communion et un amour bien plus profonds que ceux que ne pourront jamais lui offrir des créatures limitées. La relation parfaite. Et donc, conséquence, j'y reviens, Dieu n'a pas besoin de nous. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que cela devrait-il nous réjouir? Parce que oui, je le répète, ça doit nous réjouir. Pourquoi? Eh bien, parce que cela vient nous montrer que si Dieu choisit de nous aimer, et il le fait, c'est totalement librement et totalement gratuitement, sans aucun avantage pour lui-même. Dans sa totale indépendance, Dieu choisit volontairement d'avoir une relation avec nous et même d'en éprouver de la joie. Et c'est parce que Dieu n'a pas besoin de moi ou de mon amour que son amour à lui peut être vraiment parfait. Parce qu'il est entièrement gratuit. Il n'a rien à gagner. Et je crois qu'il nous faut bien comprendre cela. Parce que ça veut donc dire que toutes les initiatives de Dieu à notre égard, de la plus grande, le salut offert par grâce et notre adoption, à la plus petite, la moindre bénédiction, le moindre commandement pour nous. Toutes ces initiatives-là ne sont jamais intéressées puisqu'il n'a rien à gagner, de quelque manière que ce soit. Elles seront et elles sont donc uniquement dans notre intérêt à nous. Et oui, ça, c'est un vrai sujet de joie. Et je dirais même que c'est sur cette base que toute notre compréhension de Dieu devrait être envisagée. La gratuité totale. Tout est toujours grâce avec Dieu. J'en termine avec ce premier point sur l'indépendance. Mais gardons bien cela à l'esprit. Et gardons bien cela dans nos cœurs, cette gratuité totale. Et notamment, je dirais, gardons bien ça en tête maintenant que nous allons arriver au deuxième point. Assez délicat, disons-le. Un point qui soulève en tout cas des questions complexes. Celui de la souveraineté de Dieu. Gardons ces réalités que tout est toujours grâce avec Dieu. Gardons bien cela en tête. Et allons-y donc sur ce deuxième point. La souveraineté absolue de Dieu. C'est une autre caractéristique de sa majesté et de sa gloire. Alors, qu'entendons-nous par là? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dire que Dieu est souverain signifie simplement que Dieu gouverne toutes choses. Dieu fait tout ce qu'il veut. Il fait librement tout ce qui lui plaît. Il exerce sa volonté sans contrainte sur l'ensemble de toute sa création. Il est le potier et la création tout entière est un vase d'argile qu'il modèle comme il le désire. Dieu est souverain. Les textes bibliques abondent dans ce sens. Pourquoi les nations diraient-elles « Où est leur Dieu ?» Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Une souveraineté, on le voit, sur tout l'univers. Mais aussi, bien sûr, souveraineté de Dieu sur les hommes. Proverbe 21, le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel. Deux points, il le dirige à son gré. Ou encore un autre texte dans le Nouveau Testament. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. Il parlait de l'arrestation de Jésus. Et puis, Luc, l'auteur, continue et dit, « Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. » Dieu est souverain. Il soutient et décide toute chose selon sa volonté. Rien n'échappe à ses desseins. Après l'indépendance de Dieu qui nous montrait qu'il est le seul être qui se suffit à lui-même, voici un deuxième axe qui nous montre que rien de ce qui existe ne peut se soustraire à sa main. Rien ne peut échapper à son contrôle. Un portrait de Dieu qui ne fait que s'agrandir, alors en même temps que nous rétrécissons d'ailleurs au fur et à mesure. Mais quelle puissance, quelle grandeur, quelle gloire que cet être-là. Un Dieu infiniment souverain dont la volonté s'accomplit invariablement. Voilà le Dieu dont nous parlons. Et on ne peut être qu'émerveillé devant cela. Oui, oui, mais, parce que, à notre niveau, à nous, dans notre compréhension des choses, il y a toujours un ou plusieurs « mais » qui surgissent lorsqu'on aborde cette question majestueuse de la souveraineté de Dieu. Des « mais » qui nous troublent. Et on ne va pas pouvoir les éviter. Mais si Dieu est souverain, et si c'est sa volonté qui s'applique en tout temps, comme on vient de le dire, qu'en est-il alors du mal par rapport justement à sa volonté? Est-il de son fait? Ou encore, qu'en est-il aussi de ma liberté? Suis-je une marionnette soumise à sa volonté? Voire même de ma responsabilité. Mais Dieu peut-il encore me condamner si c'était sa volonté? Et alors, avec ces questions, sachons-le, on avance quand même en eau profonde. Et je dois confesser que j'y viens pas avec une grande aise, tant ces réflexions qui ont toujours suscité le débat dans l'histoire de l'Église nous dépassent vraiment. Et en tout cas, je me dis qu'il va nous falloir une bonne dose d'humilité pour accepter, à la fin, de s'incliner avec confiance devant notre insuffisance à les comprendre correctement. Mais essayons néanmoins d'en dire deux mots. Peut-on tenir le Dieu souverain pour responsable du mal, puisque sa volonté détermine toute chose? La réponse est évidemment non, et heureusement d'ailleurs. Trop de passages bibliques affirme de manière claire que Dieu n'a rien à voir avec le mal. Mais par contre, la Bible affirme, oui, que Dieu peut se servir du mal pour accomplir sa volonté et même pour manifester sa gloire. Et c'est étonnant, mais c'est une réalité, car même la fureur des hommes tournera à ta gloire, dit le psaume 76. Ou encore, un autre passage, encore plus troublant. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Oui, ça nous trouble. Hein. Mais pour autant, l'Écriture atteste avec force que c'est toujours, toujours l'homme qui demeure libre et responsable du mal qu'il commet. Ce n'est jamais Dieu. On le lit dans le prophète Ézéchiel. « Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Je désire qu'il abandonne sa conduite et qu'il vive. détournez-vous donc de votre mauvaise conduite. Mais ainsi, on le voit, nous sommes en face d'un vrai paradoxe. Nous voici à la fois devant une pleine souveraineté de Dieu qui ordonne effectivement tout et que les textes, je crois, nous empêchent d'amoindrir. Mais en même temps, devant une pleine responsabilité de l'homme qui n'est jamais contraint de pécher contre sa volonté. Et on sent donc qu'il y a bien ici quelque chose qui nous échappe. Une de ces pièces du puzzle qui nous manque, pour lesquelles on n'arrive pas à faire le lien. Mais comme le dit avec sagesse un autre passage de l'Écriture, et je crois qu'il là, on y est en plein dedans, ce qui est caché est réservé à l'Éternel. C'est sans doute une chose qui nous est cachée. Mais néanmoins, comment le vivre, ce paradoxe, concrètement dans nos vies? Parce qu'on peut y être parfois confronté. Comment le vivre sans diminuer la réalité dans un sens ou dans l'autre, sans diminuer la vérité biblique? Et ce n'est pas facile, c'est certain. L'apôtre Paul, peut-être, dans un passage de la lettre qu'il écrit aux Romains et qui aborde justement en détail cette question, l'apôtre Paul pourra nous apporter un premier élément de réponse, ou en tout cas une première indication. On lit ce texte. Or, Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix et qui dépend non des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. Et pour que ce plan demeure, c'est avant même la naissance de ses enfants et par conséquent avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal que Dieu dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au cadet. Ceci s'accorde avec cet autre texte de l'Écriture. J'ai aimé Jacob et pas Ésaü. Mais alors que dire? Dieu serait-il injuste? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Dans l'Écriture, Dieu dit au Pharaon, « Voici pourquoi je t'ai fait parvenir où tu es, pour montrer en toi ma puissance et pour que sur la terre entière on proclame qui je suis. » Ainsi donc, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu vas me dire, « Pourquoi alors Dieu fait-il encore des reproches? Car qui a jamais pu résister à sa volonté ?» Mais qui es-tu donc, toi, homme, pour critiquer Dieu? L'ouvrage demandera-t-il à l'ouvrier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas le droit, à partir du même bloc d'argile, de fabriquer un pot d'usage noble et un autre pour l'usage courant? Et qu'as-tu à redire si Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance en supportant avec une immense patience ceux qui étaient les objets de sa colère, tout prêts pour la destruction? Oui, qu'as-tu à redire si Dieu a agi ainsi pour manifester la richesse de sa gloire en faveur de ceux qui sont les objets de sa grâce, ceux qu'il a préparés d'avance pour la gloire. Romains 9, 11 à 23. Alors c'est sans doute un texte qui soulève encore plus de questions qu'il n'apporte de réponses. C'est évident. Et sans doute d'ailleurs faudrait-il passer plus de temps que je ne le fais ici à l'étudier en profondeur pour mieux le cerner dans son ensemble. Mais néanmoins, je crois que ces versets font ressortir avec force un point saillant et indiscutable que nous sommes vraiment invités à saisir sur ce thème de la souveraineté de Dieu. Encore une fois, c'est l'appel à l'humilité des vases d'argile que nous sommes. L'appel à l'humilité face au potier, face à la souveraineté du potier. Voilà ce qui doit nous servir de base. Et puis ensuite, nous reposant là-dessus, il me semble qu'il nous faudra juste accueillir le fait, à notre niveau à nous, je dirais, à notre niveau d'être créé, il nous faudra juste accueillir le fait que si Dieu affirme que notre liberté est vraiment réelle, que nos choix et nos actions ont vraiment de l'importance à ses yeux et que nous en sommes vraiment responsables devant lui, eh bien, c'est que nous le sommes effectivement. quand bien même sa volonté infinie dirige et suscite toute chose d'une manière qui nous dépasse. Et puis en ayant aussi cette certitude d'ailleurs, puisqu'on parle de sa volonté, que sa volonté à lui est et sera toujours de toute façon, comme le dit l'Écriture, la meilleure, la plus juste et la plus parfaite. Voilà ce qu'on pouvait dire, me semble-t-il, sur ce point. Et ça n'enlèvera certainement pas tous nos mais. Mais je crois que ça peut nous encourager vraiment à nous en remettre au Dieu qui conduit, qui dirige toute chose, tout en exerçant aussi de notre côté pleinement notre responsabilité. J'en arrive à la conclusion de cette réflexion. Et donc, que dire pour terminer ou pour résumer ce panorama incomplet, mais ce panorama quand même sur la majesté et la gloire du Dieu infini, indépendant et souverain. Qu'est-ce que la découverte de ces choses devrait impliquer en nous, au-delà d'une connaissance intellectuelle? Qu'est-ce que ça devrait susciter en nous, impliquer comme réaction? Nous avons parlé d'humilité et de crainte, mais est-ce qu'on peut retenir quelque chose d'autre? Et je voudrais relever deux choses pour conclure, deux attitudes, deux réponses à la majesté de Dieu. De réponses qui, je l'espère, nous accompagneront cette semaine et les suivantes. La première réponse, ce sera la confiance. Confiance, tout simplement, parce que c'est à ce Dieu-là que nous appartenons. Parce que c'est dans sa main, à lui, que nous sommes. Parce que c'est ce Dieu-là, le Dieu souverain, qui nous promet que toutes choses concourront à notre bien. Et je trouve que ce verset prend toute sa dimension quand on mesure de quel Dieu on parle. Parce que c'est ce Dieu-là, le Dieu indépendant, qui nous promet son amour gratuit, constant et surabondant. Ou encore, parce que c'est ce Dieu-là qui nous promet d'entendre et de recevoir nos prières. Et quelqu'un disait d'ailleurs à ce sujet que la puissance de la prière dépendait sans doute surtout de la manière dont nous considérions celui que nous prions, le Dieu infini et transcendant. Oui, confiance, et puis aussi paix, assurance. Tout cela pour celui qui prend conscience du Dieu auquel il appartient et qui vit avec lui jour après jour. Et à ce sujet d'ailleurs, je me dis aussi que s'il y en a parmi nous qui ne se sont pas encore approchés de ce Dieu, alors peut-être que devant ces réalités de qui il est, de qui est Dieu, qu'il puisse être encouragé à le faire, qu'il puisse être encouragé à lui faire confiance. Car pourrait-il y avoir un meilleur choix que celui-ci? Et puis, la deuxième attitude sera l'adoration. Comme tous ceux dans la Bible, en fait, qui ont rencontré la splendeur de Dieu. La meilleure réponse possible face à la grandeur de notre Dieu est simplement de tomber en adoration devant lui. Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel, louons le Seigneur, acclamons notre rocher car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance, acclamons-le en musique. L'Éternel est le grand Dieu. Il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre et les cimes des montagnes sont aussi à lui. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite, à lui et la terre, ses mains l'ont formée. Venez et prosternons-nous, ployons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Il est notre Dieu, nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oui, adorons Dieu par nos chants, par nos prières, et par nos vies. Apportons nos louanges au Dieu de majesté. Souvenons-nous qu'il n'en a pas besoin, mais qu'il a librement choisi de les accepter et même de s'en réjouir de tout son cœur. Quelle grâce, n'est-ce pas? Quelle joie pour nous. Puisse-t-elle nous accompagner tout au long de notre parcours, par sa grâce et pour sa gloire. Amen.